Téléphone 514-277-6409.
Son 23 FM, Midi Info.
Mercredi 23 avril 2025, vous écoutez 102.3 FM. Auditeurs et auditrices, bonjour, bienvenue à ce bulletin de nouvelles. Je suis Arlette Josué en compagnie de ma collègue Valérie Montreuil. Voici les grands titres de cette édition.
Mesdames et messieurs, bonjour. Stephen Guilbeault défend son bilan en tant qu'ancien ministre de l'Environnement et demande aux électeurs de Laurier-Sainte-Marie de garder leur confiance en lui. Élections Canada a annoncé que 7,3 millions d'électeurs ont voté par anticipation en vue des élections fédérales 2020. Un phénomène on ne peut plus rare. Pierre Poilievre fera face à une concurrence sans précédent dans la circonscription de Carleton à Ottawa. Mesdames et messieurs, nous vous avons aussi préparé l'actualité internationale, mais avant le développement des titres, voici l'éditorial de Radio Centre-Ville présenté par le directeur général, M. Wanex Lalanne Zéphir.
Quelques jours après les Pâques, Radio Centre-Ville invite tout un chacun à une analyse en profondeur pour pouvoir apporter son grain de sel ou sa moindre contribution à un nouveau paradigme. Cette analyse, génératrice de diverses actions légales, doit permettre à tout un chacun d'avancer avec courage, dignité, honnêteté et détermination dans un monde traversé par des crises, des injustices de toutes sortes. Il n'est pas normal que le monde vive dans ce tumulte global. Dans tous les continents du globe terrestre, l'injustice, l'arbitraire, l'exploitation, la criminalité, le racisme, les préjugés font rage. Partout au monde, une minorité dirige ou accapare la quasi-totalité des richesses terrestres. Il est temps que les choses changent. Il revient à chacun de nous constituer en force de vie, en bâtisseur de paix pour lutter contre la guerre, en un vrai porteur d'un espoir collectif. Oui, il ne faut pas seulement travailler pour soi, pour son bien-être personnel ou individuel. Il faut viser grand, et ceci pour le bien-être collectif. Si l'impact coïncide avec le printemps, cette saison qui symbolise la renaissance, la résistance de la lumière face à l'obscurité, la victoire de la vie sur la mort, il faut le démontrer dans nos actes, dans nos pratiques quotidiennes. Or, la réalité du monde nous prouve le contraire. Combien de peuples qui ont vécu cette semaine pascale sous la tyrannie des bourreaux? Combien d'habitants qui n'arrivaient pas à manger? Combien d'individus qui vivent dans des conditions infrahumaines? Pourtant, ils sont des croyants. Ils sont victimes à cause de leur foi chrétienne. On tue au nom de Dieu. Quel paradoxe. On prône la paix, mais on fabrique des armes sous prétexte que celui qui veut la paix prépare la guerre. Quel mensonge. Les armes fabriquées doivent être utilisées, donc on les vend. Ainsi, on engendre des guerres. On les fabrique comme on fabrique des armes. Malheureusement, la prolifération de ces armes va engendrer des conséquences presque incontrôlables. Par exemple, Haïti ne fabrique pas des armes. Pourtant, les gangs sont lourdement armés et ils rendent la vie impossible à de paisibles citoyens. Ironie du sort, les pays fabricants de ces armes font semblant de vouloir participer à la résolution de ce problème. Quelle hypocrisie! Cette hypocrisie est aussi ailleurs. On la trouve dans certaines administrations occidentales. Par exemple, celle de Trump. En effet, cette administration décide de traquer les immigrants, illégaux ou légaux. C'est désolant. Et cette désolation pousse les sceptiques à fuir les États-Unis pour se réfugier au Canada. Et c'est ce qui a déclenché cette fameuse phrase « Toutes les misères du monde ». Et en guise de réponse, l'écrivain, l'académicien d'origine haïtienne, Daniela Ferrière, a déclaré « Au lieu de parler de misères du monde, on devrait mentionner les richesses du monde ». Et ces deux phrases ont déclenché de nombreuses réactions. Radio Centre-Ville pense et le dit tout haut. Les immigrants ne sont ni misères misère ni richesse. Il contribue à l'enrichissement d'une société. Entre les expressions contribuer à et être la misère du monde ou la richesse du monde, la différence est flagrante. Mettons bas les couteaux et les expressions. Travaillons pour une société inclusive. Telle est la position de Radio Centre-Ville.
Vivement critiqué par sa rivale néo-démocrate Nima Machouf, le candidat libéral de Laurier-Sainte-Marie, Steven Guilbeault, rassure ses électeurs sur le travail fait pour le Canada lorsqu'il était ministre de l'Environnement. En entrevue à Radio Centre-Ville, l'actuel ministre de la Culture et du Patrimoine canadien, dont la réputation environnementale remonte à des décennies, a défendu son bilan en s'appuyant sur des témoignages le présentant comme le meilleur ministre de l'Environnement de tous les temps. Steven Guilbeault était au micro de notre collègue Ferhat Saïd.
Monsieur Guilbeault, merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, vous êtes candidat dans le comté de Laurier-Sainte-Marie. C'est la troisième fois que vous sollicitiez les citoyens de ce comté-là. Cette fois-ci, c'est pour un nouveau mandat. Il vous reste du travail à faire? Vous pensez qu'il y a encore du travail à faire là-bas?
Ben oui, je pense qu'il y a toujours du travail à faire. Je pense qu'on peut toujours faire mieux. Je pense qu'il y a certaines choses qui sont améliorées, d'autres sur lesquelles il faut encore travailler beaucoup. Je pense au logement, je pense à l'itinérance, la toxicomanie. Même si du côté du logement, par exemple, il y a eu des centaines de projets de logement social, communautaire, étudiants qui ont poussé dans la circonscription au cours des dernières années. On sait que les besoins sont encore très grands. On a une excellente collaboration avec la Ville de Montréal là-dessus. On veut poursuivre ce travail-là. J'aimerais poursuivre ce travail-là. Même chose du côté de l'itinérance, qui est très liée évidemment à la question du logement, mais aussi de la santé mentale. C'est pourquoi lors de la renégociation de l'entente sur la santé entre le fédéral et les provinces, nous avons insisté pour que les provinces investissent une partie des sommes transférées par le fédéral en santé mentale.
D'accord. Vous êtes actuellement ministre de la Culture et des Langues Officielles du Canada, mais tout d'abord, vous avez été tout au long du mandat avant comme ministre de l'Environnement. Quel bilan faites-vous par rapport à ce travail-là?
Je tiens à préciser que je suis effectivement, donc mon titre officiel est ministre de la Culture et de l'Identité canadienne. Je suis également ministre responsable de tout dossier nature, biodiversité, Parc Canada, donc par exemple, la mise en œuvre des objectifs de la COP15, la protection du territoire, la protection des espèces, c'est toujours sous ma responsabilité. Alors, je garde une partie du ministère de l'Environnement avec moi. Et je suis également lieutenant du Québec pour le premier ministre. Quel bilan je fais de mes 3 ans et demi, presque 4 ans de ministère de l'Environnement? Ben, je donnerais quelques exemples. C'est la première fois dans l'histoire du Canada qu'alors que l'économie est en augmentation, qu'il y a des emplois qui sont créés par millions, depuis la fin de la pandémie, la pollution diminue. Ça n'est jamais arrivé auparavant. Auparavant, si l'économie était en augmentation, la pollution était en augmentation. Alors que là, nous sommes 9% sous les niveaux de 2005. Donc, la pollution est à son plus bas niveau en 27 ans. Alors, ça veut dire que notre plan de lutte au changement climatique, il fonctionne. Mais il reste encore du travail à faire pour atteindre nos objectifs. Et il ne faut jamais perdre de vue. Certains vont vous dire que ce sont de modestes réductions d'émissions que nous avons connues jusqu'à maintenant, 9% alors qu'il faut être à moins 40 en 2030, c'est vrai. Par contre, lorsque nous arrivons au pouvoir en 2015, les conservateurs nous laissent un cadeau, entre guillemets, où les émissions du Canada, la pollution du Canada, allait être en 2030 30% au-dessus des niveaux escomptés. Alors, avant de pouvoir commencer à réduire, on peut lui éliminer toute cette pollution-là.
Monsieur Guilbeault, pourquoi je vous pose d'entrée cette question-là sur l'environnement? Parce que vendredi dernier, on a enregistré ici avec mon collègue Ismaël Mbonigaba, Madame Nima Machouf, qui est candidate dans le même comté que vous, le comté de Laurier-Sainte-Marie. Elle a beaucoup parlé d'environnement. Elle a dit clairement que le bilan de Monsieur Guilbeault n'est pas vraiment le top. Elle a parlé de 70 nouveaux puits de pétrole ouverts en mer profonde. Elle a dit aussi que les émissions de gaz à effet de serre n'ont pas diminué comme le prétend Monsieur Guilbeault, mais ils ont augmenté parce qu'ils envoient ailleurs le pétrole. Donc, qu'est-ce que vous avez à répondre par rapport à ça?
D'abord, au niveau de la comptabilité des émissions de gaz à effet de serre, nous utilisons la comptabilité du GIEC, donc le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, ce que à peu près tous les pays de la planète utilisent, sauf peut-être l'Iran, la Russie et la Syrie. c'est un peu curieux que Mme Machuk me reproche au Canada d'utiliser cette méthodologie-là. C'est un peu comme si elle, en tant qu'épidémiologiste, disait « Non, nous, on ne va pas utiliser les méthodologies de l'Organisation mondiale de la santé pour calculer les niveaux de risque ou on va utiliser d'autres méthodologies qui ne sont pas reconnues par la communauté internationale. » C'est un peu curieux. Je pourrais vous dire que le réseau Action Climat, qui est un regroupement de 300 ONG travaillant dans l'environnement, des groupes autochtones, des syndicats, a déclaré que j'étais le meilleur ministre de l'Environnement de l'histoire du pays. Même chose pour l'organisation environnementale Environmental Defense. Même l'ancien porte-parole de Greenpeace, Patrick Bonin, qui se présente maintenant pour le Bloc québécois, mais a déclaré sur les ondes du 98.5 dans une entrevue avec Patrick Lagacé en septembre 2023 que j'étais le meilleur ministre de l'Environnement. Alors, entre une adversaire politique qui n'a aucune expérience en matière environnementale et une série de représentants de groupes écologistes qui disent que je suis le meilleur ministre de l'Environnement, je pense que les gens peuvent faire le choix qui leur apparaît le plus éclairé là-dessus.
Parfait. Donc, on va revenir sur l'une de vos fonctions actuelles, celle de la culture et des langues, de la protection de la culture et des langues officielles. On sait tous que le français est en déclin au Québec, certainement aussi à travers le pays. Donc, comment comptez-vous renforcer, si bien sûr vous êtes, on renouvelle le mandat de ce portefeuille ministériel, comment comptez-vous renforcer la place du français à travers le Canada?
Si vous me permettez un dernier élément sur l'environnement, lorsque nous arrivons au pouvoir en 2015, le Canada ne protège pas 1% de nos océans et nos espaces côtiers. Aujourd'hui, nous sommes à 20%. C'est le gouvernement Trudeau qui a fait ça au cours des 9 dernières années. Et notre objectif, c'est, comme vous le savez probablement, à travers la COP15, que le Canada dont le Canada a été l'hôte, le pays hôte, à Montréal. L'objectif est de protéger 30% du territoire d'ici 2030 à l'échelle planétaire. Hein, le Canada a réussi à permettre à 194 pays de s'engager à protéger 30% de la planète d'ici 2030. Ça, c'est arrivé grâce à nous. Sur la question du français, nous sommes le premier gouvernement fédéral à reconnaître que le français est en déclin. Nous avons investi des montants records pour les langues officielles, 4 milliards de dollars au cours des dernières années. Nous avons réformé la loi sur les langues officielles pour spécifier que le français était effectivement en difficulté et qu'on devait porter une attention particulière. C'est la première fois. Vous savez, nous avons des objectifs d'immigration francophone hors Québec. Ces objectifs-là sont depuis des années de 4%. Jamais ils n'ont été atteints, sauf au cours des dernières années. Et là, maintenant, on se dirige vers... nous allons atteindre bientôt 7% d'immigration francophone hors Québec et nous avons pris l'engagement de nous rendre à 12%. D'immigration francophone hors Québec. C'est du jamais vu dans l'histoire du pays. Le gouvernement fédéral verse autour de 750 milliards de dollars à chaque année au gouvernement du Québec en francisation. Ce sont des montants très importants, des montants qui n'ont pas diminué au cours des dernières années. Alors, nous sommes très conscients de la précarité du français et du fait que nous devons investir, nous devons porter une attention toute particulière aux Français, que ce soit au Québec ou ailleurs au Canada.
Monsieur Guilbeault, on va revenir au comté maintenant, Laurier-Sainte-Marie. Donc, c'est le comté où vous êtes déjà élu à deux reprises. C'est la troisième fois que vous sollicitiez un mandat. Donc, actuellement, il y a un énorme défi, hein, c'est le logement. C'est un énorme défi qui concerne pas juste ce comté-là, mais toutes les grandes villes canadiennes. Donc, est-ce que vous avez déjà identifié des pistes de solutions? Car le coût moyen a augmenté vraiment d'une manière exponentielle au centre-ville de Montréal.
En fait, vous faites bien de préciser que ça augmente partout au Canada, mais c'est un problème mondial. Allez voir aux États-Unis, allez voir en Europe, allez voir en Asie. Il y a une crise du logement à l'échelle mondiale et le Canada n'y échappe pas. Il faut comprendre qu'au début des années 90, le gouvernement fédéral s'est retiré du financement du logement en disant on va laisser le secteur privé et les provinces s'occuper de ça. Et de toute évidence, les provinces et le secteur privé ne l'ont pas fait. C'est largement pourquoi nous sommes dans cette situation-là aujourd'hui. Donc, nous sommes revenus. Notre gouvernement a décidé de recommencer à investir des sommes historiques. On parle de 40 milliards de dollars. Évidemment, ce n'est pas un problème qu'on peut régler en criant ciseaux. Donc, je disais tout à l'heure qu'il y a eu des centaines de projets de logement social, logement communautaire, logement étudiant qui
sont en construction, qui ont été construits dans la circonscription, logement abordable également, au cours des dernières années. Mais il faudra encore plusieurs années avant que la situation se résorbe. C'est pourquoi nous avons proposé de doubler la construction de logements au Canada, donc de multiplier par deux. Je donne quelques exemples comment on va faire ça. D'abord, on veut, vous savez, il y a eu très peu d'innovation en matière de construction. Quand on regarde comment construire les voitures, quand on regarde les ordinateurs, les téléphones intelligents, il y a eu énormément d'innovations technologiques, alors que les maisons qu'on construit aujourd'hui, on les construisait à peu près de la même façon après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il faut investir en innovation. Nous, on pense qu'en investissant, par exemple, dans les logements modulaires, dans les logements préfabriqués, on estime qu'on peut réduire le délai, réduire les coûts d'au moins 20% et réduire la pollution également de ces bâtiments-là de 20%. Alors, c'est l'un des éléments. On veut également créer une nouvelle entité, Maison Canada, qui sera dotée d'un budget de 25 milliards de dollars pour fournir plus de financement, parce qu'une partie du problème, c'est l'accès au financement, que ce soit pour le logement abordable, que ce soit pour les groupes communautaires qui veulent construire des logements sociaux, des logements communautaires. Je suis moi-même membre fondateur d'une coopérative d'habitation dans Rosemont, donc j'ai assez bonne idée de comment ces choses-là fonctionnent. Alors, donc, Maison Canada va fournir du financement pour accélérer la construction de logements. La CHL va continuer de jouer un rôle également pour certains créneaux. Le premier ministre s'est engagé à enlever la TPS pour l'achat d'une première maison, parce qu'il y a des gens, on parle beaucoup de logements sociaux communautaires, c'est très important, mais il y a aussi des gens qui veulent avoir accès à la propriété. Et pour ces gens-là, donc, on enlèverait la TPS pour les maisons de moins de 1 million de dollars.
Sur une note plus globale, Monsieur Guilbault, on va revenir sur les états des lieux concernant le Parti libéral du Canada. Comment avez-vous trouvé la prestation de Mark Carney lors du débat de mercredi et jeudi?
Ben, je pense que dans les deux cas, le premier ministre s'est bien débrouillé. On a vu, particulièrement dans le débat en anglais, mais c'était le cas aussi beaucoup dans le débat en français, qu'il était la cible de toutes les attaques. C'est vrai que c'est pas un politicien de carrière, c'est pas quelqu'un qui fait ça depuis des dizaines d'années comme Yves-François Blanchet ou comme Pierre Poilievre. Vous savez, Pierre Poilievre n'a jamais travaillé dans le secteur privé. Contrairement à moi, il n'a jamais travaillé dans un restaurant ou dans le secteur privé. Tout ce qu'il a fait, c'est travailler sur la colline parlementaire à Ottawa. Mais il n'a aucune idée de comment fonctionne notre économie, comment fonctionnent les entreprises. Ses réponses sont parfois, les réponses de M. Carney ne sont pas celles auxquelles on pourrait s'attendre d'un politicien d'expérience. Ce n'est pas ce qu'il est. Mais avoir à choisir entre quelqu'un qui connaît bien l'économie, la finance et qui doit apprendre la politique, versus quelqu'un qui ne connaît que la politique, comme Yves-François Blanchet ou Pierre Poilievre, et qui doit apprendre l'économie, la finance, moi je choisis Mark Carney, qui connaît très très bien comment fonctionne notre système économique, notre système financier, et face à une crise imminente, qui est celle de l'administration américaine et de Donald Trump, nous avons besoin de quelqu'un avec ce genre de compétences.
Ok. Monsieur Guilbault, en dernier lieu, je vais vous laisser juste quelques secondes pour peut-être un petit mot à adresser aux électeurs du comté de Laurier-Sainte-Marie.
Je leur demande de m'appuyer à nouveau parce que j'ai travaillé très fort. Mon équipe et moi avons travaillé très fort pour eux au cours des presque 6 dernières années. Et mon engagement, c'est de continuer à travailler très fort avec la population, avec les groupes communautaires, les groupes écologistes. On a évidemment beaucoup d'organisations artistiques dans le comté également, desquelles nous sommes très près. Alors, mon engagement, c'est de continuer à être là jour après jour pour les organisations, pour les personnes de la circonscription de l'Orient.
Monsieur Guilbault, un grand merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Je vous souhaite de passer une très belle journée.
Merci beaucoup.
Élections Canada a annoncé que 7,3 millions d'électeurs ont voté par anticipation en vue des élections fédérales 2025. Il s'agit d'une augmentation de 25,86% par rapport à 2021. 5,8 millions d'électeurs avaient alors participé à cette première étape du vote. Élections Canada précise d'ailleurs qu'il s'agit de données préliminaires puisque certains bureaux de vote n'auraient pas encore communiqué le nombre d'électeurs ayant voté. Le nombre pourrait ainsi encore augmenter au cours des prochains jours. Les résultats finaux du vote par anticipation de chacune des circonscriptions seront disponibles sur le site web d'Élections Canada lorsque les calculs seront finaux d'ici quelques jours. Rappelons que les électeurs pouvaient voter par anticipation le vendredi 18 avril, le samedi 19 avril, le dimanche 20 avril et le lundi 21 avril de 9h à 21h. L'écart se resserre à moins d'une semaine des élections fédérales canadiennes selon les projections de l'agrégateur de sondage Québec 125. Celui-ci place actuellement le Parti libéral du Canada en tête avec une récolte de 185 sièges, ce qui représente une baisse de 5 points par rapport au lundi 14 avril. Le Parti conservateur du Canada voit plutôt son total augmenter à 125 plus 1, tandis que le Bloc québécois fait le gain le plus important avec 23 circonscriptions projetées plus 3. Le nouveau Parti démocrate NPD aurait plutôt 9 sièges à plus 2 contre un seul pour le Parti vert du Canada moins 1. Rappelons que 172 sièges sont nécessaires afin d'obtenir la majorité. Le PLC aurait ainsi un coussin de 13 circonscriptions au moment d'écrire ses lignes. Un phénomène on ne peut plus rare, le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, en fera face à une concurrence sans précédent dans la circonscription de Carleton à Ottawa. 90 candidats sont sur la liste électorale dans ce comté. Quel impact ce phénomène peut-il avoir? Voici le commentaire de Radio-Canada.
Le moins qu'on puisse dire, là, c'est que le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, risque d'avoir beaucoup de compétition dans sa circonscription de Carleton parce qu'il y a au moins 90 personnes, vous m'avez bien compris, 90 personnes qui ont déposé leur candidature pour le remplacer en tant qu'élu. Il faut dire que la majorité des gens qui se présentent dans cette circonscription-là font partie d'un groupe qui se nomme le comité du bulletin de vote le plus long. Le but de ce groupe-là dans la vie, c'est de réformer le système électoral. Ils avaient fait exactement la même chose l'an passé lors des élections partielles dans la Salémare et dans Toronto-Saint-Paul. Le bulletin de vote était très long. Il mesurait 1 mètre de long. C'était interminable. Dans tous les cas, élection Canada anticipe déjà du retard dans le dépouillement des voix dans Carleton le soir des élections. Le groupe avait voulu faire exactement la même chose là, dans la circonscription du premier ministre Mark Carney, mais rappelez-vous, M. Carney avait pris beaucoup de temps avant de déterminer que Nepean allait être sa circonscription de choix et le groupe a finalement pas eu le temps de s'organiser. Le but ultime de ce groupe-là, c'est de mettre sur pied une assemblée de citoyens et ce serait à cette assemblée-là de déterminer comment on va réformer le système électorale. Justin Trudeau avait tenté de faire une réforme électorale en 2015, mais 2 ans plus tard, il avait dû abandonner.
Mesdames et messieurs, nous poursuivons notre radio-journal avec l'actualité internationale présentée par Valérie Montoy.
Le prochain pape pourrait, et pour certains analystes, devrait venir d'Afrique. Avec près d'un cinquième des fidèles de l'Église, soit 272 millions de personnes, l'Afrique revêt une importance croissante dans le monde catholique. Le Nigeria et le Kenya affichent l'un des taux de fréquentation d'églises hebdomadaires les plus élevés au monde, tandis que la RDC, le Cameroun, l'Ouganda et l'Angola possèdent également de fortes communautés catholiques. Il existe 3 principaux candidats africains à la papabilité. Le cardinal Fridolin Ambogo Besongu, 65 ans, de la République démocratique du Congo, le RDC. Le cardinal Peter Kondwo Appiah Turkson, 76 ans, du Ghana. Et le cardinal Robert Sara de Guinée. Est-ce le moment? C'est certainement le moment idéal pour que le chef de l'Église catholique vienne d'Afrique pour des raisons qui captiveraient l'imagination du monde entier, a déclaré Greg Tobin, auteur des romans Conclave et Concile. Pour Jean-Luc Mélenchon, Donald Trump peut provoquer une révolution sociale aux États-Unis. Lors de sa visite, le chef de file de la France insoumise a déclaré que la politique du président Donald Trump pourrait déclencher une révolution sociale dans le pays. Il a également évoqué l'idée d'un rebond de la gauche américaine vers la gauche. Donald Trump et sa politique de droits de douane peuvent engendrer une révolution sociale aux États-Unis, a estimé lundi 21 avril Jean-Luc Mélenchon lors d'une visite à New York à la rencontre d'une gauche sidérée qui peut renaître ou disparaître. M. Trump est peut-être le début d'une révolution sociale aux États-Unis d'Amérique, car les Américains vont se rendre compte que tous leurs prix vont augmenter et qu'il ne suffit pas de mettre des droits de douane à l'aveuglette pour reconstituer une industrie et une agriculture aux États-Unis. Ça va chauffer, a jugé le leader de la France insoumise dans un entretien à l'agence France Presse, après une conférence à la CUNY, l'université publique de New York. L'ancien candidat à la présidentielle poursuit une visite de plusieurs jours aux États-Unis. Après le Canada, à l'occasion de la sortie de la traduction américaine de son livre « Faites mieux, vers la révolution citoyenne », il a prévu de rencontrer l'une des figures de la gauche américaine, l'élu à la Chambre des représentants, Alexandria Ocasio-Cortez, dont les meetings anti-oligarchie avec le sénateur Bernie Sanders déplacent les foules depuis plusieurs semaines. Pour Jean-Luc Mélenchon, c'est le signe qu'il se passe quelque chose. Que des milliers de gens aillent écouter un homme, Bernie Sanders, qui a 83 ans, qui leur explique que la lutte, c'est la lutte entre le peuple et l'oligarchie. C'est un phénomène qui dépasse sa personne. Guerre entre l'Ukraine et la Russie. La révolution des drones. Les drones sont partout dans la guerre entre Ukraine et Russie. La majorité des pertes, russes comme ukrainiennes, sont maintenant causées par des drones. L'un d'eux est le drone FPV, un appareil initialement conçu pour le loisir qu'on peut tenir d'une seule main, mais qui occupe maintenant une place centrale sur le champ de bataille pour chasser les fantassins ou détruire les véhicules. Le Monde décrypte à partir d'images authentifiées et de témoignages la façon dont ces drones révolutionnent le champ de bataille.
On parle de drone FPV, pour First Person View. Vu à la première personne, en français. Ils sont pilotés à l'aide de lunettes d'immersion, qui permettent aux pilotes d'être plus adroits et réactifs. Contrairement aux quadricoptères traditionnels qui sont utilisés dans de nombreux conflits, le drone FPV se pilote sans système de stabilisation. Il est donc plus rapide, plus maniable, mais bien plus difficile à contrôler. Le moindre instant d'inattention, faux mouvement ou brouillage radio, et le drone est perdu. En fonction des pilotes et des zones du front, 6 à 8 drones sur 10 sont perdus avant même d'atteindre leur cible.
Mesdames et messieurs, c'est ici que nous concluons ce Radio-Journal. L'équipe de nouvelles vous remercie encore une fois de votre fidélité. La coordination a été assurée par Ismaël Bonigaba et la réalisation par Jean-Claude Tranquille. À la présentation, c'était Arlette Josué et Valérie Montreuil. Nous vous souhaitons une agréable journée.
Centre-ville, le vrai portrait de la multi-ethnicité au Québec.
Où qu'il y a douleur dans tout corps, sans santé dormir. Où senti ou stressé, sans santé dormir. Et douleur dans son âme, dans ses tubes. Douleur dans l'estomac, dans les genoux. Ou qu'il y a problème gaz constipation. Besoin massage ou qu'il y a ballonnant.
Solution par l'autre que sans santé dormir. Digitacol dans 5872 boulevard Léger Suite 18 à Montréal Nord. Pour plus d'informations, relève 514-329-0647. Frem, même problème, bonne nous gérer tout.
L'efficacité, la courtoisie, la ponctualité sont devenues les notes d'excellence de Maître Suzy Jean. Alors, sachez faire d'elle votre meilleur atout. Pour vos testaments, célébrations de mariage, achats de propriété, Maître Suzy Jean Notaire. Maître Suzy Jean Notaire vous attend dans le chic de son bureau au 4570 rue Jean Talon Est, suite 202. Si on ne parle pas l'autre, n'a pas qu'on est qui s'appuie bon pour nous. C'est pour ça, Maître Suzy Jean là, oui. Maître Suzy Jean Notaire, à le rencontrer avec elle, dans 4570 rue Jean Talon Est, bureau 202. Téléphone 514-318-1854. 514-318-1854. Maître Suzy Jean Notaire, le vôtre.
Dans ce monde un peu fou, où on ne sait plus à qui ou à quoi faire confiance, je veux que tu saches que ton cœur est fiable et que les bonnes personnes existent encore. Entre ciel et terre se voudra un havre de paix, une bulle d'amour où nous échangerons sur la vie, ses défis, ses joies, ses peines, ses contradictions, sans filtre et sans jugement. Entre ciel et terre, un monde où la foi, l'espoir et l'amour seront roi et maître de doux moments créés par nos conversations presque nocturnes. Je suis Claudine Hilaire, Claude pour les intimes, pour toi, dès le mercredi 2 octobre à 23h, sur les ondes de Radio Centre-Ville au 102.3 FM. Entre ciel et terre, au plaisir de bâtir avec toi un monde nouveau, une heure à la fois.
Au centre de ma ville se trouve une station de radio, au centre de laquelle diverses équipes linguistiques travaillent jour et nuit. Au centre de leurs soucis, les intérêts des moins nantis. Le 5FM se préoccupe de la situation des gens d'ici. Promouvoir la réalité des minorités, telle est la priorité de Radio.